bienvenue au 35e épisode de Litteramour. En novembre 2023, j'ai accompagné l'historienne et auteure britannique Jackie Kornstam dans une tournée de lecture. Hambourg était l'une des étapes. Nous y avons rencontré Christina Igla. Elle s'engage pour la mise des pavés de mémoire, les Stolpersteine, et m'a recommandé de lire les livres de l'auteure Deborah Levi-Berthera. Son roman « Les voyages de Daniel Achat » a été traduit en allemand. J'ai acheté la fiction historique « Sur la terre des vivants » parue en 2023 et j'ai rencontré Deborah Levi-Berthera il y a quelques semaines à Paris, au Café Montparnasse, place du 18 juin. Puisque le 18 juin 1940 est une date particulière dans l'histoire française du XXe siècle, Charles de Gaulle a lancé depuis Londres un appel à la résistance contre l'occupant nazi et contre la collaboration de l'État français. J'ai demandé à Deborah Levi-Berthera si l'appel du 18 juin avait encore une signification pour les jeunes Français et Françaises et s'ils étaient conscients qu'il y a des moments dans la vie où il faut choisir entre résistance et collaboration.
Je suis sûre qu'ils l'apprennent tous au collège et au lycée, mais est-ce que c'est vraiment présent dans les mémoires? Je ne suis pas sûre si on dit à quelqu'un 18 juin. Le 11 novembre, c'est férié, mais le 18 juin, ça ne l'est pas. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils sauraient dire. Mais puis cet enjeu, j'ai l'impression qu'il s'éloigne un peu quand on voit la façon dont les gens votent en France et ailleurs. C'est un peu inquiétant, on se dit que peut-être cette question de la liberté et de la démocratie, elle paraît moins urgente alors qu'elle l'est toujours, à mon avis.
Parlons de votre livre sur la terre des vivants. Une partie de votre famille a vécu en Allemagne et vous avez reconstruit leur vie. Cette famille se dispersait dans les années qui précédaient la Deuxième Guerre mondiale. Quelques membres ont pu s'émigrer en Palestine, les enfants d'un grand-oncle ont été sauvés parce qu'ils ont été envoyés avec les Kindertransport en Angleterre. Lui et sa femme ont été assassinés en Lituanie. Votre grand-mère était restée à Hambourg et puis a été déportée à Theresienstadt. Sa fille lui suivait. Elle avait survécu miraculeusement. Est-ce que vos parents ont évoqué et parler à la maison du destin de votre famille allemande?
Très peu, en fait. C'est pour ça que ça restait, pour moi, mystérieux. J'ai su très tard que mes deux arrière-grand-mères, du côté de mon père, avaient disparu dans des camps. Et vraiment très tard, c'est-à-dire après 40 ans. Je ne sais pas si c'est parce que je ne voulais pas le savoir ou parce qu'on ne me l'avait pas dit. Mais c'est-à-dire, c'est vraiment un exemple parmi beaucoup d'autres de familles où on ne racontait pas ces choses-là, peut-être parce que c'était douloureux. Tout en parlant quand même beaucoup du nazisme, de la Shoah, on était très informés, aussi bien à la maison qu'à l'école, mais pas de façon personnelle, pas de façon familiale. C'était une information, disons, un peu générale.
Est-ce que vous étiez la première à visiter l'Allemagne, de se rendre sur les lieux? Parce que si vous dites que vous avez appris l'histoire de vos grands-parents paternels qu'à l'âge de 40 ans à peu près, ça veut dire que peut-être vos parents, ils n'avaient pas de lien avec l'Allemagne. Ils ont hésité de s'y rendre pour voir d'où une partie de la famille venait.
Alors, donc, ma mère est française, donc pour elle, la question ne se posait pas. Elle avait une aversion pour l'Allemagne qui venait du fait que son père et son grand-père avaient été tués par les Allemands pendant la guerre. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller éventuellement en Allemagne. Mais mon père, pour son travail, allait très souvent en Allemagne. Et c'était pas du tout un tabou pour lui. Il est toujours parfaitement germanophone. C'est sa langue maternelle et il se sent chez lui en Allemagne. Donc ce tabou, il est plutôt de mon côté que du leur.
Comment est-ce que vous avez appris et su et recherché comment vos ancêtres, votre famille a vécu à Hambourg?
Alors il y a eu beaucoup de voies en fait qui m'ont mené vers les diverses pistes. À la fois, disons, un déclenchement qui est venu du fait que j'ai envoyé un courrier, un mail en fait, à la mairie de Hambourg pour demander s'il y avait des Stolperstein posés pour ma famille. Et dans la suite, j'ai reçu un courrier d'une personne qui travaille pour l'histoire de la communauté juive de Hambourg et qui m'a proposé de me guider aux archives. Et j'étais très surprise en fait, parce que j'avais pas pensé même qu'il y avait des documents aux archives, alors que j'aurais pu y penser. Ça me faisait assez peur, mais j'ai eu l'impression qu'au moins par politesse, il fallait y aller. Et en dehors de ça, il y a eu toutes sortes de voies détournées en fait, parce que les archives, disons, c'est le continent principal, mais autour, il y a toutes sortes d'îlots d'informations que j'ai pu récolter, soit en allant sur place dans les rues où avaient vécu mes ancêtres, même si elles ont énormément changé, soit en cherchant des informations par d'autres pistes sur des personnes qui pouvaient ressembler à ma famille. Et par analogie, disons, j'ai pu aussi avoir des informations plus générales.
Et comment l'idée de témoigner de la vie et de raconter leur vie vous est venue à l'esprit ?
J'ai connu les deux plus jeunes sœurs de mon grand-père, donc les deux survivantes. Et c'est vrai que ça m'est venu tardivement, l'envie de raconter leur histoire. J'avais envie de leur rendre hommage, j'avais envie d'écrire quelque chose sur elles. Et j'ai beaucoup tâtonné pour trouver la forme que prendrait ce témoignage, si on peut dire un témoignage, puisque c'est par personne interposée, hein, c'est indirect. Mais j'ai beaucoup réfléchi et tourné les formes possibles. Et il m'a semblé que le meilleur moyen, c'était quand même d'essayer de me mettre à leur place, non pas à la première personne, mais en racontant sous une forme fictionnalisée et non pas fictionnelle leur histoire, en étant aussi près que possible des faits. Mais j'ai quand même ressenti le besoin de rappeler dans des fins de chapitre ma position extérieure, même si je suis évidemment très impliquée dans cette histoire. Voilà, le fait que ça n'est pas vraiment mon histoire et que par procuration.
Vous décrivez dans votre livre une photo de vos grand-tantes, Edith et Irma. Elles sont les sœurs de votre grand-père, Kurt Lévy, que vous n'avez pas connu. Vous dites que vous aviez l'âge de 9 ans. Est-ce que vous pouvez lire ce passage qui parle de cette rencontre, de cette photographie ?
Oui, voilà le passage en question. J'aurais peut-être oublié cet instant sans la photo qui en témoigne. Je me souviens seulement qu'elles m'ont remercié, j'ignorais que c'était l'usage. Elles sont rentrées s'asseoir dans le salon, où les stores vénitiens étaient baissés, et je les ai suivies. Elles ont repris le fil de leur conversation en allemand, langue pour moi totalement opaque. Je m'efforçais, tel un caméléon, de me fondre dans le tissu de mon siège et les observais en silence. Leurs mains avaient une façon particulière de se mouvoir, les doigts toujours joints, comme ceux des poupées, que j'ai retrouvées plus tard chez d'autres Allemands. Elles riaient bruyamment, en renversant la tête en arrière. Ma grand-mère m'étant plus familière, mes yeux s'attardaient surtout sur ses belles-sœurs. Mes grand-tantes ressemblaient à des oiseaux, si menues qu'elles semblaient ne rien peser. L'aînée, Edith, était toute petite, et ses yeux très bleus, incrustée dans le gris de ses cernes, lui donnait la grâce d'une chouette effraie. Irma, la cadette, longue et émaciée, avait quelque chose d'un héron. Ses longs membres maigres ne tenaient pas en place. Je la revois toujours posée sur un accoudoir, prête à se relever à tout instant, plutôt qu'assise dans un fauteuil. Jamais installée, nulle part. Sa peau était entièrement piquetée de taches de rousseur, comme si elle avait, à un moment de sa vie, traversé une pluie d'étincelles.
Merci. Irma, elle est retournée en Palestine après avoir pu quitter le camp des Displaced Persons à Deggendorf. Vous la décrivez comme une personne qui parle souvent rudement, qui cache ses rébus, trouvés dans la rue, sa sœur Edith se rappelle que plusieurs fois, lors de réunions en famille, au moment de se séparer, Irma voulait parler de leur mère morte à Theresienstadt, mais que personne ne voulait vraiment l'écouter. Il lui disait « Oublie, assez parler de mort, nous construisons un pays neuf sur la terre des vivants, d'où le titre aussi. Et on se dit, ils ont raison de reposer la mémoire pour pouvoir se projeter dans l'avenir, pour avoir une vie. Et en même temps, ils ont tort de refouler l'expérience et la mémoire douloureuse, la souffrance aussi d'un membre de la famille.
Oui, bien sûr, c'est fou de penser que sa propre famille et qu'un pays comme la Palestine, qui n'était pas encore Israël, mettait à distance cette mémoire du génocide, parce que c'était leur histoire, c'était l'histoire de leurs proches, de leur famille, de tout ce qui arrivait. Et ça paraît presque monstrueux de penser qu'il y a eu une sorte de tabou comme ça, posé sur cette mémoire toute fraîche, sur cette tragédie. Et pourtant, c'était le cas. C'est effectivement, il y avait cette idée qu'il se construisait un pays neuf, effectivement, et que voilà, on ne voulait plus entendre parler du passé. Il y avait même un certain mépris de cette vieille Europe un peu rétrograde, etc. Ce qui est fou, c'est de penser qu'un pays comme la Palestine, où vivaient beaucoup de réfugiés juifs et des familles des victimes de la Shoah, qui les voyaient arriver après la guerre, n'aient pas été prêts à les écouter. Il y avait même là un tabou sur cette tragédie et presque une espèce de mépris ou en tout cas une volonté d'ignorer la vieille Europe alors qu'on construisait quelque chose de nouveau, ce qui peut paraître monstrueux si on pense à l'impact que ça pouvait avoir sur leurs proches.
Irma, je veux dire, sa tragédie en quelque sorte, c'est qu'elle est restée une personne déplacée partout, non ? Elle n'a pas trouvé sa place ni en Palestine, en Israël, disons, et en Allemagne.
Je pense qu'elle aurait aimé revenir en Allemagne, rester en Allemagne, puisque après le camp de Theresienstadt, elle a été à Deggendorf en Bavière. Évidemment, elle n'était pas chez elle. Je pense qu'elle se sentait, comme sa sœur Edith, profondément allemande. Et d'ailleurs, elles avaient choisi de vivre en Palestine, dans une ville complètement allemande, complètement germanophone, à Haria. Mais je pense aussi que ça n'était plus possible, hein, que tout était d'une certaine manière sali en Allemagne. Il n'y avait plus de possibilité de vie. Là, c'est vrai que j'ai peut-être un peu à interpréter leurs pensées, leurs sentiments, parce que, évidemment, ce sont des choses que je n'ai jamais évoquées avec elle. Ce que je sais seulement, c'est qu'Edith, la sœur aînée, parlait qu'exclusivement allemand. Donc, il y avait pas vraiment de volonté de s'intégrer dans la société, disons, juive palestinienne puis israélienne. En revanche, Irma, elle, avait appris l'hébreu. Juste peut-être un petit point, ça n'est pas Irma qui était venue en Palestine avec sa mère, c'était Edith. Irma était restée en Allemagne, et quand la mère est revenue, parce qu'elle ne s'est pas méfiée, en fait, elle n'a pas aimé la Palestine en 35-36, elle est revenue en Allemagne, et à ce moment-là, elle s'est jetée dans la gueule du loup, disons.
Vous dites que ce n'était pas si facile que ça de visiter l'Allemagne, puisque ça a été longtemps été un pays maudit, et que la langue allemande pour vous était opaque. C'était comme si elle se refusait, alors que vos enfants apprenaient facilement l'allemand. Et vous êtes allé à Berlin d'abord, puis 10 ans plus tard à Hambourg, en compagnie de votre fille. Vous dites que je me suis enfin rendue. Et quand même, il y a un sentiment d'appartenance, non ?
Oui, c'est très curieux parce que, alors la langue, effectivement, m'est restée opaque. Je ne l'ai pas apprise à l'école et je me suis un peu condamnée à ne pas arriver à l'apprendre. Bien que j'ai essayé par plusieurs méthodes, je m'étais inscrite à un cours à l'Institut Goethe, j'avais essayé de suivre des cours d'allemand d'une collègue, et j'ai l'impression que ça rentre facilement et ça ressort aussitôt. C'est comme si ça me traversait sans s'accrocher. Alors ce sentiment de familiarité que j'ai avec Hambourg en particulier, Je l'attribue au fait que mes ancêtres ont vécu là et que je le sais et que j'ai l'impression de retrouver les lieux, de renouer avec quelque chose. Oui, l'idée que je me suis rendue comme si je lui appartenais à cette ville. Alors maintenant, les gens me disent, mais tu sais, Hambourg est une ville très accueillante. Tout le monde a ce sentiment. Alors moi, je suis un peu vexée parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que les gens sont très amicaux et que ça compte aussi. Oui.
La description des conditions de vie avant les deux guerres mondiales comporte inévitablement une forte part de fiction. Il y a des chapitres intercalés dans lesquels vous racontez l'avancement de l'écriture et de vos recherches. Et ils sont d'une grande franchise aussi. J'aime beaucoup la qualité littéraire de vos réflexions, de vos songeries. Comme une scène où vous imaginez une visite interdite au cimetière. La sœur de votre grand-père a couru derrière le chat et se met à découvrir un monde qui lui était interdit. Elle se croit dans la forêt des contes. Finalement, on va trouver la fille couchée sur une tombe et installer une grille pour qu'elle ne puisse jamais plus s'échapper à ce terrain.
Oui, merci. C'est vrai que c'est un chapitre qui me tenait à cœur, qui est un peu inspiré d'une photo, qui est la seule photo d'enfance que j'ai de la fratrie de mon grand-père, où on voit donc mon grand-père, Kurt, et sa petite sœur Irma. Elle doit avoir peut-être 2 ans et demi, et ils sont dans un décor de studio de photos, devant un faux jardin qui est peint derrière eux. Et à sa position, à la position du pied de la toute petite fille, on sent qu'elle a envie de s'échapper, que c'est une petite fille fugueuse. Puis elle était restée comme ça encore quand elle était vieille dame, c'était une rebelle. Et donc j'ai imaginé cette fugue dans le cimetière à partir de cette photo et aussi à partir d'une petite anecdote que m'a racontée une cousine qui m'a dit que quand sa mère était petite, qu'elle avait 5 ans, elle a le souvenir de sa dernière visite à Hambourg chez la grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, qui était encore directrice de la maison de retraite, puisque c'était ça la fonction de mes grands-parents. Ils étaient donc à la tête d'une maison de retraite, une petite maison de retraite juive, et en même temps gardien du cimetière juif à Tenant. Et donc vraiment à la frontière entre la vie et la mort, c'est une chose que j'ai complètement découverte et qui m'a fascinée. Et elle se souvient que donc sa mère lui a raconté que les 3 enfants s'étaient enfuis dans le jardin, étaient allés dans le cimetière jouer à cache-cache, et que la grand-mère était furieuse parce que on ne joue pas dans un cimetière, ça n'est pas respectueux, etc. Ce qu'on peut concevoir. Donc c'est aussi un peu, disons, à partir de cette photo et de cette anecdote que j'ai construit cette scène qui était l'occasion de faire visiter ce cimetière que j'ai visité moi-même à ma deuxième visite à Hambourg, donc tardivement aussi, alors que j'étais en train d'écrire le livre, et qui est absolument magnifique, qui est assez bien préservé, bizarrement, et bien entretenu, et qui est un lieu d'une très très grande poésie, parce que ces vieilles tombes sont sculptées et racontent des histoires. C'est un peu comme une espèce de... presque un art pariétal, enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une bande dessinée. Enfin, c'est un album à feuilleter pour cette toute petite fille qui, évidemment, ne sait ni lire l'allemand ni l'hébreu, et qui regarde les mains, les lions, les guirlandes, etc., les ancres de bateaux, et qui se raconte des histoires.
Vous avez aussi utilisé l'intelligence artificielle pour animer la photo de l'arrière-grand-père Elkan Levy. Portrait animé pendant 12 secondes seulement, mais 12 secondes peuvent paraître très longues, j'imagine. C'est à la fois inquiétant et émouvant de voir un visage animé d'une personne qui est morte depuis si longtemps.
Ça, c'est mon frère m'a envoyé, c'était une opération publicitaire en fait, comme un échantillon gratuit, si on veut. Et il avait essayé sur notre autre grand-père. Et moi, j'ai essayé sur ce grand-père-là. Et après, j'ai essayé sur d'autres photos anciennes. Et c'était la seule qui soit convaincante. C'est la première que j'avais essayée. Et c'est extrêmement bien fait. Je dirais pas vraiment inquiétant, non. Plutôt très touchant, très chaleureux, en fait. Il faut dire que sur cette photo, c'est un vieux monsieur qui sourit. Et c'était assez rare à l'époque, les gens ne souriaient pas sur les photos. Et je me dis, ça devait être quelqu'un de très souriant, si même sur la photo il sourit. C'est complètement programmé, ça ne veut rien dire probablement, mais ces 12 secondes en disent beaucoup. En fait, évidemment, je les ai en plus regardées en boucle.
Vous dites que vos séjours en Allemagne avaient reposé les questions de votre identité. Le seul cas, écrivez-vous, où vous vous êtes, depuis l'adolescence, affirmé juif sans hésiter, c'est face aux antisémites. Je pense que depuis des années, c'est nécessaire de savoir comment se positionner face aux antisémites. Cela a toujours été, mais est-ce que cela demande de plus en plus de courage ?
Peut-être. J'ai vraiment très très tardivement et très rarement, je dois dire, eu l'impression de rencontrer l'antisémitisme. Probablement parce que j'ai de la chance et que voilà, je vis dans des milieux où la question ne se pose pas. Et j'ai très longtemps nié l'existence de l'antisémitisme en France. Et là maintenant, ça devient difficile. Voilà, j'ai eu un peu un aveuglement par rapport à ça. Effectivement, face à des discours antisémites, là, j'avais la certitude, voilà, c'était le moment de dire qu'on était juif et peut-être même quand on ne l'était pas. La position, disons, de métisse en quelque sorte, hein, d'être à moitié, je la trouve très intéressante et enrichissante évidemment. Et en même temps, voilà, elle permet, disons, des fluctuations et parfois aussi, c'est vrai, ça expose moins peut-être hein, que d'être tout à fait juif. Donc c'est une question qui se repose maintenant, depuis le 7 octobre, de façon très différente. J'ai l'impression que c'est devenu très clivant et que les échanges, que la tolérance est vraiment mise à mal des deux côtés.
Paris comme Munich sont des villes qui refusent la mise en place des pavés de mémoire. Il y en a beaucoup, beaucoup dans des villes allemandes, même dans d'autres pays. Les pierres sur lesquelles on trébuche décrètent une représentante de la communauté juive d'Allemagne serait un symbole non acceptable. Les représentants du mémorial de la Shoah à Paris refusent également cette forme de commémoration. Est-ce que cela vous embarrasse ou est-ce qu'il y a une évolution à attendre? Est-ce qu'ils vont peut-être changer de position?
Alors, je ne sais pas du tout s'ils vont changer de position parce que je ne suis pas dans les secrets de leurs décisions. Je trouve que c'est dommage. D'abord parce que je pense que toutes les formes de mémoire peuvent coexister. La mairie de Paris dit « mais on fait déjà beaucoup, on met des plaques sur les écoles, c'est très bien, mais on pourrait avoir diverses formes ». L'autre chose, c'est que c'est une forme de… c'est discret, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une chaîne, en fait, qui concerne toute l'Europe. C'est le même modèle. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça gêne, mais moi, je trouve que c'est… au contraire, ça donne bien l'idée… que c'était la même monstruosité qui s'est abattue sur toute l'Europe, et que ce soit en Italie, en France,
en Belgique,
en Allemagne, etc. Voilà, c'est la même monstruosité. Et donc, on pourrait, par ce signe de petits pavés qui se ressemblent partout, rappeler cette communauté en fait, des destins, même si, bien sûr, ils sont divers. Et puis, la troisième chose, c'est que je trouve ça très beau. Alors, je dois quand même avouer, quand Christina, la dame qui me guidait à Hambourg, m'a dit « on peut mettre des pierres pour votre famille », j'ai eu une petite réticence parce que la décision ne m'appartient pas à moi, il faudrait que tout le monde se mette d'accord et ça aurait peut-être lieu, mais j'avais quand même un tout petit peu la réticence de me dire « est-ce que les gens ne risquent pas de marcher dessus ?» Elle me répond « non, les gens s'arrêtent et s'inclinent ». Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que les interdire, ça n'a pas de sens. Je trouve qu'il faut, que ça puisse exister.
Et C'était la 35e édition de Literamour avec Sigurd Brinkmann et Deborah Lévy-Bertera. Au prochain épisode, il sera question du livre « Un homme sans titre » de Xavier Leclerc. Il a remporté 3 prix littéraires en France et sera monté en pièce de théâtre par Jean-Louis Martinelli en janvier 2025. Ceci dit, je me réjouis de vous voir rester avec mon podcast. À la prochaine et bien à vous.